France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Les lois de la jungle ne sont pas qu'une affaire de chasse et de prédation. Elles sont aussi faites d'entraide, de coopération et de protection mutuelle. Pourquoi les animaux sont-ils sociaux et en quoi la socialité peut-elle être considérée comme une stratégie évolutive ? Dans le monde naturel, la socialité est omniprésente. L'incroyable coordination d'un vol d'oiseaux ou celle d'un banc de sardines. Les séances d'épouillage chez les primates. Pourtant, Darwin lui-même admettait que sa théorie de l'évolution était mise en péril par les sociétés animales, l'évolution étant conçue comme un processus largement individualiste. Comment expliquer par exemple que certaines chauves-souris vampires qui vivent en grappe font don de leur récolte pour sauver leurs voisines affamées, même sans lien de parenté? On ne connaît pas de gène de l'altruisme, et aujourd'hui plus personne n'en cherche. Alors comment a-t-on éclairé la socialité animale et ses mécanismes? Socialité, évolution, l'union fait la force. Bonjour Juliette Berger.
Bonjour.
Vous êtes docteur en biologie et spécialiste de la socialité des insectes et de leur histoire évolutive. Nous sommes en ligne avec Serge Aron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du FNRS, l'équivalent belge de notre CNRS, directeur du service évolution biologique et écologie à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste d'écologie comportementale, chaire de comportement animal. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure, en podcast, grâce à l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors pourquoi certaines espèces sont-elles sociales et d'autres non? Et peut-on dater l'apparition de la socialité chez les êtres vivants? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, à quel point la socialité marque-t-elle le monde vivant? Réponse avec notre archive du jour, nous sommes en 1949.
Étant admis que toute société implique de la part de ses membres soit une impulsion interne qui rapproche l'animal de ses semblables, soit une attraction qui agit de l'extérieur entre les individus d'une même espèce, ou parfois d'espèces différentes, nous considérerons tout de suite les principaux types de groupements ayant une signification sociale. À elle seule, la diversité des sociétés rend malaisée toute tentative de systématisation. Mais elle n'est pas le principal obstacle auquel se heurte le classificateur. La sociabilité est un phénomène sporadique qui, à l'intérieur d'une même classe zoologique, d'un même ordre, voire d'une famille, frappe certaines espèces et respecte les autres. Moins de 10% des 20 000 espèces d'abeilles actuellement décrites vivent en société. Si beaucoup de rongeurs sont grégaires, bien plus encore demeurent solitaires. Sur des milliers d'espèces, les araignées n'en comptent que quelques-unes de sociales. Les sociétés animales sont nées indépendamment les unes des autres. Chacune d'elles constitue un type particulier. La ruche, la fourmilière, la termitière se sont réalisées dans des groupes distincts et sont le fruit d'évolutions séparées. Rien de commun entre elles et une société d'oiseaux ou de mammifères. Il ne saurait donc y avoir une phylogenèse de l'ensemble des sociétés animales. Cette constatation enlève tout espoir de dresser une classification naturelle des groupements d'animaux.
Voilà le zoologiste Pierre-Paul Grasse dans l'heure de culture française sur la RDF en 1949. Juliette Berger, à quel point la socialité est-elle donc répandue dans le monde animal? On entendait un certain nombre d'exemples dans cette archive.
Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est très répandu, c'est apparu à de nombreuses reprises au cours de l'évolution. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est apparu chez des groupes d'espèces, des lignées très différentes en fait, à la fois chez les mammifères, chez les oiseaux, chez les crustacés, chez les insectes. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que c'est très diversifié.
C'est très diversifié, votre réaction à vous aussi, Serge Aron, à l'écoute de cette archive?
Oui, moi je suis touché. Je n'avais jamais entendu Pierre-Paul Grasset, que je connais parce que j'ai lu pas mal de ses travaux, bien sûr. Il a raison dans à peu près tout ce qu'il dit, en tous les cas à l'époque. Nous sommes quand même presque un siècle plus tard, donc il a tout à fait raison. C'est fascinant de voir que la socialité a évolué dans différents groupes animaux, mais la socialité n'a pas évolué de la même manière dans ces différents groupes, et pas pour les mêmes raisons toujours non plus. Hein. Donc on en reparlera peut-être plus tard. Mais en tous les cas, je suis très ému par ce que je viens d'entendre. Un des éléments quand même sur lequel qui m'a fait réagir en fait dans le propos, c'est que Pierre-Paul Grasset souligne quand même que la majorité des animaux n'ont pas de vie sociale. La majorité des espèces animales ne vivent pas en société. Et la raison principale, ou en tous les cas une des raisons principales qui explique cela, c'est que l'intérêt de l'individu, en général, passe au-dessus de l'intérêt du groupe. Et donc, en fait, dans tous les groupes sociaux, il y a des conflits entre les individus. Et lorsque la force des conflits, la pression exercée par les conflits entre les individus domine le bénéfice de la vie sociale, à ce moment-là, les animaux vivent séparément. Il n'y a que lorsque le bénéfice de la collectivité dépasse le coût des conflits, qu'à ce moment-là, les individus peuvent créer éventuellement des sociétés.
Juliette Berger, on entendait également dans cette archive parler de différentes espèces qui sont solitaires, asociales. Quel autre exemple avons-nous justement de ces animaux asociaux ?
De ces animaux asociaux ?
Oui, qui justement ne vivent pas ni en groupe, ni en collectivité, ni en relation avec des membres de leur groupe ou d'autres espèces.
Ah bah c'est une grande partie du monde animal, en fait. Et en fait, ils vont simplement se regrouper en général pour de la reproduction et continuer le cours de leur vie, en fait, de façon assez solitaire, tout simplement.
Tout simplement, en fait, il y a différents niveaux de socialité au sein du monde vivant. Et ça, Serge Aron, on a défini différents types de socialité. Quels sont-ils, ces types ?
Oui, donc il y a plusieurs niveaux de socialité. Mais de nouveau, Pierre-Paul Grasset les évoque. Vous avez des animaux qui peuvent se regrouper simplement parce qu'ils sont attirés par la lumière. Il n'y a aucun élément autre qu'un stimulus externe qui les pousse à se retrouver au même endroit. Et puis vous avez un niveau de socialité qui est un peu plus élaboré, qui est simplement des animaux qui se retrouvent à la période de reproduction, parce qu'il faut bien rencontrer un mâle et une femelle, ils doivent bien se retrouver quelque part à un moment donné, et ils peuvent être attirés l'un par l'autre. Donc ce n'est plus par un facteur externe à l'animal, mais par un facteur interne aux animaux, ils s'attirent les uns les autres par l'intermédiaire de systèmes de communication. Mais ces groupes, comme vient de le dire Juliette, se séparent après la reproduction. Et puis vous avez d'autres groupes, alors c'est une autre forme de pré-socialité, où les animaux peuvent vivre un certain temps ensemble, certaines périodes de l'année, plus longuement que pendant la période de reproduction, pour divers facteurs. Par exemple, une meilleure défense contre la prédation, une meilleure capacité d'accès aux proies à certaines personnes, à certaines périodes de l'année. Et puis, vous avez encore l'étape supérieure, qui est la vraie socialité, où les animaux vivent alors en permanence en groupe.
Gilles Berger.
Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, je dirais quand même quelque chose d'important sur ces niveaux de socialité. En fait, maintenant, on n'utilise plus le terme niveau, mais plutôt catégorie, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose un petit peu de l'ordre de l'anthropomorphisme, en fait, de créer des hiérarchies dans les catégories sociales. C'est pour ça que maintenant, on utilise le mot catégorie plutôt que niveau social. Et c'est particulièrement vrai parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, chez des niveaux qu'on appelait très élevés, donc eux sociaux ou quasi-sociaux. Par exemple, chez certaines fourmis, on avait des fois des retours à un niveau solitaire, un moment de leur niveau de vie. Ou alors, au cours de l'évolution, on a aussi des transitions de cas de socialité à solitaire. Donc en fait, on a plusieurs catégories qui peuvent s'interchanger de temps en temps, à l'échelle des espèces, hein, pas de temps en temps à l'échelle de l'individu. Donc voilà, c'était pour clarifier ce terme-là.
Très bien, alors pour clarifier ce qui nous concerne, comment caractériser la socialité humaine ? On pourrait parler de niveaux sociaux, justement ?
Alors, je ne pense pas qu'on peut utiliser les mêmes
puisque nous sommes principes. Des animaux sociaux.
On est des animaux sociaux, mais ce qu'on a caractérisé comme animal E-social, c'est la définition de Edward Osborne Wilson qu'il propose en 75. Et donc, c'est un chevauchement des générations d'adultes et un soin aux jeunes coopératif avec une casse reproductive. Donc ça, c'est un petit peu réducteur pour décrire les sociétés humaines. Donc c'est très intéressant pour étudier les sociétés animales. Et encore une fois, c'est des caractéristiques qui doivent être discutées si on parle d'autres sociétés animales que des sociétés insectes, parce que ça, c'était en 70 sur des sociétés principalement d'insectes, mais il y a d'autres sociétés de mammifères, d'autres sociétés de crustacés qui peuvent avoir quelques distinctions. Et ça, c'est vraiment intéressant à aborder aussi.
Serge Aron, sur cette question pour caractériser la socialité humaine.
Oui, ce que vient de dire Juliette est tout à fait est exact. En fait, il y a une particularité. En fait, le terme de socialité reste encore par moments débattu par les spécialistes. Chacun propose sa propre définition. Par exemple, certains auteurs insistent sur l'idée que le socialité, donc le sommet de la socialité dans l'échelle sociale, est caractérisé par une caste, comme l'a dit Juliette, par une caste d'individus non reproducteurs. Et ces individus non reproducteurs ont perdu la capacité à se reproduire, totalement. Ils n'ont plus d'organes génitaux, par exemple. Et pourtant, ils se reproduisent de génération en génération, depuis des millions de générations, hein, ils sont toujours là. Ça, c'est un des grands paradoxes, justement, dont on reparlera plus tard. Certains définissent la socialité comme cela. Ça ne concerne évidemment pas le genre humain. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que le genre humain soit de type e-social, mais il est certainement très social.
En tout cas, vous venez de dire ce mot, le mot paradoxe. Parlons de ce grand paradoxe pour Darwin, avec justement son Origine des espèces, 1859. Darwin lui-même donc admet que sa théorie est mise en péril par les sociétés animales. Il dit, à propos justement des sociétés d'insectes, « Elles sont une difficulté particulière qui d'abord m'a paru insurmontable et réellement fatale à ma théorie dans son ensemble, Juliette Berger. » Comment Darwin justement aborde-t-il ce paradoxe?
Alors, il faut peut-être replacer.
Pourquoi est-il un paradoxe aussi, peut-être,
oui,
d'abord?
Oui, il faut replacer un petit peu les choses dans son contexte. À ce moment-là, il sort sa théorie de la sélection naturelle, c'est-à-dire comment les espèces évoluent et quels sont les principes qui sous-tendent cette évolution. Et parmi ces grands principes, il pose le principe d'hérédité, c'est-à-dire qu'un géniteur va transmettre des caractères à ses descendants. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans une société comme société animale comme chez les abeilles, la majorité en fait des ouvrières ne vont pas accéder à la reproduction, comme l'a dit Serge Aron, et donc en fait, ça constitue et non vont pas transmettre leur caractère à la génération d'après. Donc, ça constitue le paradoxe de Darwin et qui ne va pas dans le sens de ce principe fondamental d'hérédité.
Oui, Serge Aron.
Ben oui, voilà. En fait, le fameux paradoxe de Darwin, c'est comment des individus qui ne se reproduisent pas se reproduisent. C'est ça, son paradoxe. Hein? Comment, depuis des millions de générations, des individus qui, parfois, n'ont même plus d'organes génitaux, alors chez les abeilles, les ouvrières qui ne se reproduisent pas, gardent quand même encore des ovaires, mais il y a même des espèces chez lesquelles les ouvrières ont perdu les ovaires, en tous les cas, chez un grand nombre d'espèces de fourmis, par exemple. Et pourtant, ces individus sont reproduits depuis des millions de générations. Comment est-ce possible? C'était ça son paradoxe, comme le dit Juliette, très justement. Et Darwin propose déjà une piste. En 1859, il dit « ça doit reposer sur le concept de famille ». Il évoque déjà le concept de famille à l'époque, et il faut attendre une centaine d'années, il faut attendre en fait 1963, pour être tout à fait précis, pour voir sortir alors un article produit par un professeur d'Oxford qui s'appelle Bill Hamilton, qui va proposer une théorie de la famille, qu'on appelle la théorie de la sélection de la parentèle, donc des parents, pour expliquer comment des individus qui ne se reproduisent pas peuvent néanmoins avoir un succès dans la reproduction et transmettre des copies de leurs gènes aux générations futures. Et cette théorie de la sélection de la parentèle, hein, proposée par Hamilton, est, pour un grand nombre de biologistes de l'évolution, une des théories majeures après la théorie de la sélection naturelle.
Et bien justement, comment la recherche sur la socialité biologique a-t-elle contribué à dépasser le paradoxe de Darwin? Dans quelle mesure l'entraide est-elle un facteur de l'évolution? Restez à l'écoute.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons de ruches, de fourmilières, de termitières, de villes, d'animaux sociaux. Nous parlons de la socialité animale avec Juliette Berger et Serge Aron. On vient de parler du paradoxe de la socialité chez Darwin. On vient d'évoquer un instant la théorie de la sélection de la parentèle qui a été formulée en 1963 par Hamilton. On a des exemples, Juliette Berger, justement, qui sont venus vérifier la sélection de parentèle dans la nature.
Alors, je crois que c'était plutôt en 64, la sélection de parentèle, que 63. Bon, à vérifier. Hein.
63, 64,
ouais, on est quand même, voilà. C'est qu'en fait, à ce moment-là, Darwin avait déjà énoncé une petite idée, mais il n'avait pas le support génétique. À l'époque, on ne connaissait pas l'ADN, on ne connaissait rien à tout ça. Dans les années 60, on sait ce que c'est qu'un chromosome, on sait à peu près ce que c'est que l'ADN et comment ça se transmet. Et du coup, il va réutiliser un petit peu l'idée de Darwin, qui disait qu'en fait, que les abeilles, par exemple, pouvaient transmettre indirectement leurs caractères héréditaires en adoptant un comportement altruiste et en aidant les reines, par exemple, à la reproduction. Et bien Hamilton va reprendre un petit peu cette idée, il va dire mais en fait chez les abeilles c'est un cas très particulier parce qu'on partage, elles partagent une majorité de leur matériel génétique avec leur sœur ouvrière et donc en aidant de façon altruiste la reproduction des reines, elles transmettent indirectement une grande partie de leur matériel génétique et ce de façon beaucoup plus importante que si elles accédaient à la reproduction de façon individuelle. Donc là, en fait, c'est vraiment intéressant parce que cette théorie, elle permet d'allier à la fois la sélection naturelle, d'enlever l'épine du pied à Darwin et d'expliquer la sélection naturelle à une sélection, à un groupe social animal avec un nouveau support, la génétique.
On a d'autres exemples, Serge Aron, justement, de cette sélection de la parentèle dans la nature ?
Alors, il est vrai que les hyménoptères sociaux, les fourmis, les abeilles, les guêpes, sont des modèles particulièrement adaptés pour l'expression de la sélection de la parentèle, parce qu'en effet, comme l'a dit Juliette, les individus ont une très forte proximité génétique, et ça, c'est dû à un système de reproduction un peu particulier, sur lequel on ne va pas revenir ici. Mais la socialité a également évolué par sélection de la parentèle chez les organismes qui ont un mode de reproduction équivalent au nôtre, classique, chez les oiseaux et chez des tas d'autres organismes, des mammifères, des rataupes par exemple. Et donc des exemples clairs d'évolution sociale par sélection de la parentèle, on en a un grand nombre en particulier chez les oiseaux, on en a aussi chez les organismes beaucoup plus simples comme des unicellulaires. Hein, on a pu démontrer il y a quelques années par exemple que les bactéries pouvaient coopérer ensemble si elles sont apparentées. Elles coopèrent mieux pour lutter contre les antibiotiques. Donc il y a des niveaux... Je dirais que la sélection de la parentèle est une théorie tellement générale qu'elle peut être illustrée, qu'elle a pu être vérifiée aussi bien chez des unicellulaires que chez des insectes, que chez des oiseaux ou que chez des rataupes comme les mammifères. Alors, on peut donner des tas d'exemples, mais bon, là, on en a pour une heure ou deux. Donc, je me limiterai à ceci.
En tout cas, voilà, par rapport aux exemples de cette théorie, qui confirme donc bien l'intuition darwinienne, la socialité au sein de la famille doit être bénéfique vu sa quasi-universalité. Mais ça ne suffit pas à expliquer toutes les formes de socialité. Juliette Berger, on a une deuxième de grande théorie, c'est celle de la réciprocité.
Ouais. Alors, celle de la réciprocité, elle tire un petit peu sa façon de percevoir les choses du mutualisme aussi. Parce qu'en fait, il y avait un petit problème avec la sélection de parentèle, c'est que tous les organismes sociaux ne répondaient pas à... En tout cas, ça fonctionnait pas bien avec tous les organismes sociaux. Par exemple, le cas des termites, qui montrent une organisation dans la coopération qui est similaire à celle qu'on trouve chez les fourmis et les abeilles. Et pourtant, qui ne partage pas autant d'ADN avec les ouvriers que ce qu'on peut trouver chez les abeilles et les fourmis. Et donc là, il y a eu d'autres voies de théories qui se sont mises en place. C'est donc cette fameuse théorie de l'altruisme réciproque et du mutualisme, où là, en fait, c'est Triver, je crois, en 71, qui propose l'idée que, en fait, si on a une espèce de confiance entre chaque partenaire de la coopération. Si tu m'aides un jour, l'autre membre m'aidera le lendemain, de façon très, très générale, hein, très large. Et cette théorie, il faut qu'elle soit également stable dans le temps. Donc ça, c'est Magnard Smith qui propose ça, qui propose qu'il ne peut pas y avoir de tricheur, en fait, dans cette coopération, sinon elle ne pourra pas durer dans le temps. Elle peut apparaître à un moment donné et disparaître tout aussi vite s'il n'y a pas cette stabilité qui s'installe.
On a en effet cette théorie du tit for tat, donnant-donnant. On a là encore, Serge Aron, des exemples dans la nature qui illustrent bien cette réciprocité. Un exemple que j'aime beaucoup, que j'ai cité dans mon introduction, celui des chauves-souris vampires.
Oui, donc comme le dit Juliette, la réciprocité est un type de coopération à bénéfice différé, contrairement au mutualisme qui est un type de coopération à bénéfice immédiat. Quand vous êtes dans un système mutualiste, Pierre aide Paul et Paul aide Pierre. Et ensemble, ils obtiennent leur objectif et tous les deux obtiennent ce qu'ils recherchent, ont un bénéfice de leur interaction qui est immédiat. Dans un système réciproque, je vous aide aujourd'hui et j'espère que vous m'aiderez demain. Si c'est un système de réciprocité directe. Alors, rien ne dit que vous allez m'aider demain. Et donc, ce que je vais dépenser comme énergie, comme temps, et ce que je vais vous consacrer à vous, va avoir un coût pour moi. Et ce coût doit être compensé par un bénéfice. Et ce bénéfice, c'est évidemment votre réciprocité. Et la réciprocité ne peut fonctionner que si le bénéfice que je reçois d'un autre est plus grand que le coût que j'ai payé pour aider l'autre. Alors, des exemples comme cela, il y en a une volée dans la nature. Et par exemple, en effet, chez le vampire d'Azara, qui vit en Amérique du Sud, qui sont en fait des petits mammifères qui vivent dans des troncs d'arbres creux et qui, la nuit, se nourrissent du sang des équidés, hein, des animaux, des ânes. Et il arrive régulièrement que certains individus rentrent bredouille au nid parce que, simplement, ils n'ont pas trouvé de nourriture. Eh bien, ces individus-là peuvent solliciter des individus qui, eux, ont trouvé leur nourriture avec succès pour que ces derniers leur régurgitent un peu du sang qu'ils ont pu aspirer sur l'un ou l'autre équidé. Et il existe un véritable système réciproque là, parce que si un individu refuse de donner à un bredouille un peu de sang qu'il a pu pomper sur un cheval ou sur un âne, eh bien, la prochaine fois que ces individus interagissent, si le bredouille a lui eu du succès et que celui qui a eu du succès n'a pas eu de succès cette fois-ci et qu'il le sollicite, à ce moment-là, celui qui a réussi à se procurer du sang ne donnera pas à celui qui ne lui a pas donné avant. Donc, pour être très clair, si A sollicite B et que B refuse de donner à A, au coup suivant, A ne donnera pas à B, même si B le sollicite. Et donc, il y a une forme de tit for tat, de donnant-donnant. C'est en fait œil pour œil, dent pour dent. Tu m'aides aujourd'hui, je t'aiderai demain. Si tu ne m'aides pas, je ne t'aiderai pas. Par contre, ce qui est bien dans cette théorie, c'est que si on part dans un système négatif où vous ne m'aidez pas, donc je ne vous aide pas, je vous sollicite, vous ne m'aidez pas, donc je ne vous aiderai pas au coup suivant, mais si un jour je vous sollicite et que finalement vous acceptez de recoopérer avec moi, alors je recoopérerai avec vous. Donc en quelque sorte, il existe une forme de pardon qui permet de revenir dans le système de la coopération entre les individus.
Ce système de donnant-donnant, Serge Aron, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le toilettage mutuel chez les chimpanzés.
Alors, on le retrouve dans le toilettage mutuel chez les chimpanzés. Et ce qui est extraordinaire chez ces primates, c'est que les auteurs qui ont étudié cela se sont rendus compte qu'en fait, cette réciprocité était extrêmement différée dans le temps. Et donc, quand ils travaillaient sur l'échelle d'une semaine, de deux semaines, de trois semaines, ils ne voyaient pas de réciprocité. C'était toujours à peu près les mêmes qui toilettaient les autres. Mais sur le long terme, ils se sont rendus compte que les autres finissaient par toiletter les premiers. Et donc, le délai, et c'est, je l'ai évoqué juste à présent, le délai ici entre ce que je donne et ce que je reçois peut être très long, ça peut être plusieurs semaines. Mais au total, tous les individus reçoivent peu de choses près la même quantité de toilettage qu'il n'en procure. Et donc, il y a en effet un système de réciprocité là, qui apparaît, mais qui est très différé dans le temps. Oui. Vous avez la même chose chez les antilopes, hein, mais là, c'est beaucoup plus rapproché dans le temps. Les antilopes en Afrique, vous les voyez souvent en tête bêche, elles se lèchent mutuellement le cou et elles font ce qu'on appelle des séquences de toilettage où elles se retirent les parasites, les ectoparasites, les tiques par exemple. Elles se retirent les ectoparasites les unes des autres et là, vous observez que, en fait, une antilope toilette autant la deuxième antilope que la deuxième antilope ne toilette la première. Il y a vraiment le nombre de séquences de toilettage de A vers B et de B vers A est à peu près équivalent.
Cette troisième théorie, pour finir le tour justement théorique que vous avez cité tout à l'heure, Juliette Berger, c'est celle le mutualisme biologique. Là, on parle de comportement complémentaire entre des animaux d'espèces différentes. Puis il y a cet exemple qui est très très fameux, très connu, ces échanges service-service entre le poisson clown et l'anémone de mer. On a aussi tout un tas d'exemples de mutualisme biologique dans la nature avec différents niveaux d'échanges qui sont, enfin, que ce soit des ressources, des services.
Oui. On a tout un tas de. Peut-être le plus emblématique, c'est peut-être celui entre les plantes et la pollinisation, donc entre les plantes et les pollinisateurs, où là, on a un service où les plantes se font polliniser par les pollinisateurs, donc les insectes, et les insectes récoltent de la nourriture. Mais on a tout un tas d'autres exemples, le poisson toiletteur, par exemple, où lui va se coller à un autre gros poisson. Et là, par exemple, on a donc un gros poisson qui se fait enlever ses parasites par le petit poisson qui va pouvoir manger. Voilà, par exemple, comme exemple.
Alors maintenant, par quel mécanisme, quels sont tous ces mécanismes qui impliquent la socialité animale ? Restez avec nous.
Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the stars in the sky, the girl and the guy, and the way they could kiss on a night like this. When I look into your big brown eyes, it's very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. When I look into your big brown eyes, it is very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Well, let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the stars in the sky, a girl and a guy.
The Bird and the Bees de Ine Martin en direct sur France Culture, car nous parlons de socialité animale en compagnie de nos deux invités du jour, Juliette Berger, docteur en biologie et spécialiste de la socialité des insectes et de leur histoire évolutive, et Serge Aron, directeur au FNRS, directeur du service évolution biologique et écologie à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste d'écologie comportementale. On vient de parler de l'origine évolutive au phénomène social, d'évoquer le gros obstacle conceptuel du darwinisme concernant cette origine. À présent, quels sont les mécanismes en jeu ? C'est notre deuxième archive du jour.
Les différentes manifestations d'ordre social que l'on peut observer dans les diverses espèces animales nous sont apparues d'ordre fondamentalement instinctif. Qu'il s'agisse de l'organisation proprement dite des sociétés animales, de l'établissement d'une hiérarchie sociale ou de la conquête et de la défense du territoire, tout se passe comme si la nature avait prévu tout un arsenal de réactions innées par lesquelles chaque individu répond aux attitudes de ses congénères ou d'animaux d'autres espèces. Ces attitudes étant d'ailleurs elles-mêmes souvent des réactions à d'autres attitudes, et ainsi de suite. L'instinct semble donc être la base fondamentale de la sociabilité. En particulier, nous avons souligné que les cas de coopération, d'entraide, chez les fourmis, les abeilles, et même dans les sociétés d'oiseaux et de mammifères, avaient pour substrat des mécanismes innés de déclenchement, pour reprendre l'expression de Tinbergen. Toutefois, nous savons que plus nous montons dans la hiérarchie animale, plus nombreuses sont les conduites acquises par apprentissage, voire, chez les mammifères supérieurs, par intellection et compréhension immédiate.
Voilà un extrait de l'heure de culture française sur la RDF en 1956. Juliette Berger, la base de la socialité, c'est donc l'instinct, ce sont des mécanismes innés comme ce qui était dit dans cette archive.
Ah, c'est marrant d'utiliser le mot instinct, parce que maintenant on sait que ça répond surtout à des mécanismes de signalétique, chimique, vibratoire, gestuel, visuel, plutôt que de l'instinct, quoi. Donc.
Votre réaction, Serge Haron, à l'écoute de cette archive?
Oui, c'est touchant, mais c'est vrai que, bon, de nouveau, on est quelques années avant aujourd'hui, et donc la science a beaucoup progressé, en particulier dans notre compréhension des mécanismes fins qui permettent aux animaux de maintenir les relations sociales. Parce que vivre en société, bien sûr, vous avez des animaux qui vivent en société, et ça, il y a là un facteur génétique, il y a un facteur instinctif, comme le sous-entend Pierre-Paul Grasset. Par contre, il faut faire fonctionner la société. Alors c'est bien de se regrouper, mais si on n'en fait rien, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc pour faire tourner une société, pour organiser les activités entre les individus, il est indispensable de passer par des mécanismes de communication. Et c'est ce qu'évoque Juliette à l'instant, il faut pouvoir communiquer pour organiser, pour structurer la société, pour pas que ça parte dans le chaos, évidemment.
On va évidemment revenir sur ces mécanismes de communication, mais là on vient de parler de facteurs génétiques. Juliette Berger, dans les années 60-70, le gène c'était l'élément central de toute la biologie, et on a cherché un gène de l'altruisme. Aujourd'hui c'est complètement obsolète comme question et comme recherche.
Oui, on sait qu'il n'y a pas un gène de l'altruisme. C'est plutôt une réponse environnementale sur la génétique et l'expression des gènes. C'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne, même si on a une diversité de mécanismes génétiques qui se mettent en place et qui communiquent les uns avec les autres, justement pour répondre à cette fluctuation environnementale qui est un signal social, un type de communication ou ce genre de choses.
On a découvert par exemple, je pense au CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, c'est un ensemble de gènes impliqués dans la reconnaissance de soi par le système immunitaire et l'odeur d'un individu, Serge Haron.
Oui, alors le CMH, il est propre mammifère, c'est une séquence génétique, c'est ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité, qui en fait est un groupe de gènes extrêmement polymorphes, très 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 variables, c'est même le plus variable dans le génome animal, à ma connaissance en tous les cas, et qui intervient dans les défenses immunitaires. Donc qui permet aux organismes, aux mammifères, j'insiste, de lutter, de se défendre contre les pathogènes. Et en fait, une partie de ces antigènes sont émis, sont produits dans les urines. Et donc les animaux peuvent détecter, en tous les cas certains mammifères peuvent le faire manifestement, peuvent détecter l'odeur d'un partenaire à partir de son urine qui contient des marques de son système immunitaire, si vous voulez. Et donc, les femelles chez les souris, pour prendre cet exemple-là, les femelles de souris sont capables de détecter la présence d'un mâle et de choisir de s'accoupler avec un mâle apparenté, ou non apparenté plutôt qu'avec un mâle apparenté, donc d'éviter, si vous voulez, des phénomènes de consanguinité sur base de l'odeur des urines. De même, les mâles de certains campagnols, des petits mammifères des prés, eux, quand on les met en présence d'odeurs, d'urine, d'autres mâles, eh bien, ils s'accouplent mieux, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de sperme au moment de l'accouplement pour être sûr d'être les pères parce qu'il y a un risque de compétition avec d'autres mâles dans le voisinage. Et cette réaction est provoquée par l'odeur d'urine qui elle-même porte des marques du CMH, du congénère en quelque sorte.
Oui, par rapport justement sur cette question de la reconnaissance sociale, Serge Aron, sur quelle base sensorielle s'appuie-t-elle? Donc, selon les espèces, ce n'est pas le même sens qui est impliqué. Je parle des mammifères, bien sûr.
Alors, vous voulez la reconnaissance sociale, mais elle peut s'appuyer sur des tas de facteurs. Alors, chez les mammifères, c'est généralement chimique, mais ça peut très très bien être visuel aussi. Je reconnais mes apparentés, je sais qui est qui de ma famille parce qu'on se ressemble, parce qu'on a grandi au même endroit. Chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, c'est comme ça que ça se passe. En fait, je reconnais mes parents au sens large, c'est-à-dire mes frères, mes sœurs, mes cousins, à des critères qui sont simplement des critères de localisation. On est né dans le même nid, donc on est frères et sœurs, par exemple, tout simplement. Il n'y a pas de reconnaissance propres si on les sort du contexte. Mais il y a par contre des tas d'autres organismes chez lesquels la reconnaissance se fait sans aucun problème à distance. Par exemple, vous prenez un mâle de souris, vous le laissez à la naissance, il est nourri, donc il est allaité par sa mère. Après, il est sevré, et quand il atteint l'âge adulte, à 3 mois, on le met en face de 2 femelles. Une femelle qui est similaire qui porte les mêmes gènes au CMH que la maman, et une femelle qui porte des gènes différents au CMH de la maman. Eh bien, il s'accouplera préférentiellement avec la femelle qui est différente au CMH de sa mère. Et comment est-ce qu'il le fait? Parce qu'il détecte une fois encore l'odeur de la femelle à partir de marques génétiques, et il a appris à reconnaître l'odeur de sa maman pendant qu'il était allaité, et plus tard, bien plus tard dans sa vie, à l'âge adulte, il choisira d'éviter de s'accoupler avec tout ce qui sent l'odeur de sa maman, pour éviter la consanguinité, par exemple. Donc c'est un système de reconnaissance, et si on veut en revenir aux insectes, puis c'est quand même là que nous avons les plus grosses sociétés connues, en tous les cas les plus élaborées, eh bien, c'est le même principe. En réalité, la reconnaissance est principalement d'ordre chimique par ce qu'on appelle des phéromones. Et là, je pense que Juliette est tout aussi compétente que moi pour pouvoir développer cet aspect-là.
On va parler évidemment des phéromones des insectes sociaux. Mais pour finir avec vous, Serge Aron, sur cette question de la reconnaissance chez les mammifères, on a évoqué là l'odorat. On peut aussi évoquer l'ouïe. Chez les primates, par exemple, les macaques reconnaissent les membres de leur famille et les membres des autres familles. Par exemple, si on diffuse dans un mégaphone le cri d'un bébé macaque, les membres adultes du groupe se retournent vers la mère en question.
Bien entendu, la communication acoustique est fondamentale. Et vous savez que chez les humains, c'est également le cas. C'est-à-dire qu'un bébé, un nourrisson, donc un bébé à la naissance, si on lui a fait entendre de la musique ou la voix de sa maman quand il était dans le ventre de celle-ci, in utero, eh bien, si on lui met 2 enregistrements de voix, d'un côté la voix de sa mère, de l'autre côté la voix d'une femme étrangère, il va se retourner vers la voix de sa mère, alors qu'il ne l'a entendue que in utero. Donc il y a là aussi un mécanisme de reconnaissance et d'apprentissage avant la naissance.
Eh bien maintenant, comment ça se passe pour les insectes sociaux? On poursuit avec le reportage du jour.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons des socialités animales, en compagnie de Juliette Berger et Serge Aron. Pour illustrer les différents avantages évolutifs de la socialité, on se penche sur un animal emblématique de la vie en société. C'est le reportage du jour et c'est avec vous Loïc Dutoit, bonjour. Vous êtes rendu sur le campus universitaire de Jussieu à Paris et vous avez rencontré Mire Messina Gramnicolas. Merci. Bravo. Pour ce petit cadeau lexical. Quel est l'animal qui porte ce joli petit nom?
Eh bien, je vais vous donner quelques indices pour vous aider à deviner. Alors déjà, vous l'avez dit, ce sont des insectes. Elles ne mesurent que 2 ou 3 millimètres. Elles vivent dans des colonies allant de 20 à 150 individus. Et je dis « elle » parce qu'il y a des ouvrières, une ou plusieurs reines qui s'occupent de la reproduction, tandis que les mâles, eux, vivent très peu de temps et ne servent presque à rien, mis à part l'accouplement. Là, vous l'aurez compris, peut-être, je parle de fourmis. C'est elle que j'ai rencontrée. Donc, Myrmecina graminicola, c'est une espèce qu'on retrouve tant dans la nature que dans des environnements urbains. Elle est un peu spéciale puisqu'elle possède une variété génétique qui se traduit dans les comportements sociaux. C'est ce que montre un article à paraître d'ici quelques jours dans une revue prestigieuse. Claudie Dooms est directrice d'études à l'École pratique des hautes études et chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle. C'est l'une des autrices de cet article.
Alors c'est très basique, hein. Donc le fond de la boîte, c'est du plâtre. Ça permet de maintenir l'humidité.
Oui, parce que je vois qu'il y a même un petit peu de moisi.
Oui, vraiment, elles sont très très sensibles à la dessiccation et elles peuvent mourir très très vite si c'est pas assez humide. Donc ça, c'est vraiment important. Et sinon, leur nid, c'est juste deux petites lames en verre séparées par de la mousse de 2-3 mm d'épaisseur avec un petit dessin pour former des chambres. Et là, vous voyez, elles se sont bien regroupées au centre. Elles sont bien regroupées les unes sur les autres.
Et elles sont entre eux, ces deux petites lames de verre, voilà. Du coup, mais il n'y en a aucune qui est dans la boîte sortie.
Non, là, il n'y a personne qui est dehors.
Tout le monde est à la maison.
Oui, alors ce sont des fourmis qui sont très, très lentes quand elles se déplacent et qui n'aiment pas du tout la lumière. Et donc, c'est vrai qu'on pense qu'en laboratoire, elles doivent quand même pas mal sortir le soir, la nuit.
Une des particularités de cette espèce de fourmi, c'est qu'elle présente un polymorphisme social. Alors je vous laisse peut-être déjà nous dire ce que c'est que du polymorphisme et nous expliquer quel est le polymorphisme dans le cas de cette espèce.
Alors un polymorphisme, c'est un terme très générique hein, pour indiquer que dans les populations, on peut trouver deux formes différentes. Par exemple, le genre chez l'homme, le sexe masculin, féminin, c'est un polymorphisme quelque part. Donc là, c'est un polymorphisme social qui est lié à la forme, l'organisation sociale de la colonie. Donc du coup, nous avons des colonies avec une seule reine, qu'on appelle monogyne, mono, une seule gyne, reine, et des colonies avec plusieurs reines, polygyne. Et c'est intéressant, parce que en fait, ça veut dire que dans les colonies où il y a plusieurs reines, il y a une acceptation sociale d'une deuxième reine qui se reproduit. Puisque bien sûr, dans les colonies de fourmis, la reproductrice, c'est la reine. Donc cette espèce-là a vraiment une particularité qui est très originale, c'est d'avoir non seulement ce polymorphisme social, mais en plus un polymorphisme de la présence-absence d'elle chez la reine. Et dans les colonies où il y a plusieurs reines, elles n'ont jamais d'ailes. Alors que dans les colonies où il y a une seule reine, elles peuvent avoir des ailes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent aussi ne pas en avoir. Et ça, ça reste encore un peu mystérieux pour nous. La première étape, ça a été d'essayer de comprendre comment ce polymorphisme était déterminé. Il y a quelques études chez les fourmis qui ont démontré dans les dernières années que le polymorphisme social, donc le fait d'avoir une ou plusieurs reines, pouvait être déterminé génétiquement. Alors que pendant des décennies, les chercheurs pensaient que c'était de la plasticité. C'est-à-dire que bon, bah, si je suis toute seule, j'ai qu'une reine, il y en a d'autres qui arrivent, j'en ai plusieurs.
Et donc, ce que vous avez peut-être cherché à voir, c'est s'il y a un lien entre ce polymorphisme social-là au niveau génétique et les gènes qui codent pour savoir si la reine a des ailes ou si elle n'en a pas.
Exactement. Donc ça, c'était vraiment un objectif de voir si c'était lié. Donc on a construit un génome parce qu'il n'était pas connu et on a pu montrer qu'il y avait ce qu'on appelle un supergène. Il faut l'imaginer comme une grande partie du génome où il y a plusieurs gènes qui vont déterminer des traits différents et qui sont tous liés entre eux. C'est la même image que pour le sexe avec les chromosomes sexuels. Donc en gros, vous pouvez imaginer un chromosome social qui détermine s'il y a une ou plusieurs reines. Et à l'intérieur de ce chromosome, il y a une petite partie qui détermine en fait la présence ou l'absence d'ailes. Donc on a pu démontrer que génétiquement, c'était bien lié. Ce qui veut dire que nos colonies avec une seule reine sans ailes sont génétiquement différentes des colonies avec une seule reine avec elle. Et ça, c'était pas évident au départ, parce qu'on trouve une colonie avec une seule reine qui n'a pas d'aile, on peut se dire que c'est une reine polygyne et puis la deuxième est morte. Ou on l'a juste perdue au moment où on a échantillonné les colonies. Donc, au départ, on ne savait pas du tout si cette association qu'on voyait était vraie ou si c'était juste...
Ça aurait pu être une anomalie circonstancielle, quelque part.
Exactement. Et donc, on a montré que non, en fait, génétiquement, ces reines, toutes seules dans les colonies, mais qui n'ont pas d'ailes, sont vraiment différentes génétiquement que celles qui ont des ailes.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces différentes évolutions génétiques qui ont un impact sur la colonie, la manière dont elle se disperse, etc., elles ont forcément un impact évolutif. Il y a des caractéristiques qui vont être avantageuses pour certaines colonies et d'autres qui vont être désavantageuses. Mais est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ça ?
Alors, je ne vais pas vous donner la réponse, parce que justement, les études sont en cours et on essaye de comprendre comment il est maintenu, ce polymorphisme. Et effectivement, il peut y avoir des avantages et des désavantages. Donc, d'un point de vue écologique, évolutif, le fait de disperser peut être un avantage. Ça permet de coloniser de nouveaux habitats. Parce qu'il n'y a que la reine qui fonde la colonie, avec ou pas des ouvrières, mais il faut la reine. Donc du coup, si la reine ne vole pas, elle ne peut pas aller fonder des colonies dans des nouveaux habitats.
Et donc à ce moment-là, on pourrait penser que les colonies avec une reine avec des ailes seraient avantagées.
Tout à fait. D'un autre côté, quand le milieu est trop fragmenté avec des zones d'habitat qui sont absolument défavorables, les reines qui dispersent vont tomber dans des zones où elles ne peuvent pas fonder une colonie et vont mourir. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas trop disperser et rester sur place. Donc ce polymorphisme social, avec ce polymorphisme à l'air, s'apparente à des coûts-bénéfices liés à la compétition. Donc si j'ai plusieurs reines, quand je fonde ma colonie, je suis plus grande, donc j'ai un avantage en termes de compétition.
C'est en quelque sorte comme une compensation sociale au fait que les reines n'ont pas d'ailes.
Exactement, mais d'un autre côté, je suis bonne dans la compétition, mais en revanche, je ne suis pas bonne pour coloniser de nouveaux habitats et disperser. Et donc, du coup, nous, l'hypothèse qu'on est en train de tester actuellement, et donc je ne peux pas vous dire les réponses parce que je ne sais pas, c'est de voir si dans des milieux très fragmentés comme les villes, où les habitations, clairement, c'est un habitat qui ne leur convient pas, quelle est la fréquence de morphes qu'on trouve le plus ? On partirait de l'hypothèse que c'est plutôt des polygynes, parce que la dispersion dans ce contexte va générer un coût très fort dans la mesure où les reines ailées risquent de tomber dans des zones très 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 défavorables et donc mourir.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour voir la recherche en pleine fabrication, c'est notre collection La Science au Labo qui est à retrouver sur l'appli Radio France. Une réaction à l'écoute de ce reportage, Serge Aron ?
Oui, donc ce sont des travaux dont on m'avait informé récemment. L'article n'est pas encore sorti. Ce que je voudrais, ce sur quoi j'aimerais insister ici, bon, c'est remarquable, hein, ce sont des superbes études qui sont faites par mes collègues là-bas, c'est que l'existence de supervaines, c'est-à-dire des très longues séquences sur des chromosomes qui regroupent un ensemble de gènes qui sont liés. Quand on dit liés, ça veut dire qu'ils sont attachés les uns aux autres et qui sont transmis ensemble. Eh bien, ces supergènes, en fait, sont connus pour être la cause de multiples polymorphismes. Alors ici, on illustre l'existence chez cette fourmi de colonies avec une seule reine ou de colonies avec plusieurs reines, ainsi que la présence ou l'absence d'ailes. Mais par exemple, on sait que les supergènes peuvent être impliqués dans des variations de comportement et de plumage chez les oiseaux, sur la couleur des ailes chez les papillons, ils sont impliqués dans des tas de mécanismes d'auto-incompatibilité chez les plantes, dans le mode de fécondation chez diverses espèces de champignons. Donc, les supergènes sont de plus en plus mis en évidence au cours de ces dernières années, grâce au progrès de la biologie moléculaire, en réalité, et on en trouve de plus en plus, et ça permet de transmettre des grands paquets de gènes qui sont associés et qui permettent de maintenir des caractères ensemble parce qu'ils sont adaptatifs. Voilà.
Votre réaction, vous aussi, Juliette Berger, à l'écoute de ce reportage ?
Malheureusement, chez les termites, on n'a pas autant de données parce que c'est un groupe qui est encore assez peu étudié. Donc, ça, on commence à avoir quelques données en génomique, en génétique. Mais oui, pour le moment...
Parce que les termites, vous nous avez dit en tout début d'émission que c'était impossible de définir un point de départ dans l'histoire de la vie du phénomène social, que c'est apparu il y a de nombreuses reprises dans l'évolution, mais on imagine que finalement le groupe le plus ancien, c'est celui des termites, là où est apparu le fait social.
Oui, c'est exactement ça. C'est plutôt les termites qui sont apparus en premier dans l'histoire évolutive des sociétés d'insectes, jusqu'au jour où on trouve peut-être d'autres fossiles, on ne sait pas.
Parce que votre travail de thèse, en effet, vous travaillez sur la socialité des blattes et des termites, qui d'ailleurs appartiennent au même groupe, ça, on ne le sait pas nécessairement. Alors comment, là on parlait justement des mécanismes de reconnaissance d'un individu au sein d'un même groupe, comment cela se passe-t-il dans ce groupe-là?
Alors, de la même façon que pour les fourmis et les abeilles, on a des systèmes de chimiques, de langage chimique, avec beaucoup de phéromones, donc... Pour un signal, en fait, on a des molécules que l'individu va déposer. Par exemple, pour l'appareillement sexuel, c'est la même chose chez les fourmis. On a une femelle qui va déposer une phéromone à un moment donné pour attirer le mâle et donc commencer la nouvelle colonie. On a aussi des phéromones, par exemple, pour alerter du danger. Et là, qui peut être couplé chez les termites avec des signaux vibratoires, par exemple. Parce que les soldats, par exemple, ils peuvent claquer leur tête contre le sol ou claquer leur mâchoire pour lancer des signaux vibratoires. Et donc, lancer un signal plus complexe, couplé avec le signal chimique. Et donc ça peut soit permettre, par exemple, de rameuter un petit peu les troupes et ramener les ouvrières pour défendre ou justement de les disperser face au danger. On a également des signaux chimiques pour la reconnaissance, tout comme chez les fourmis. Donc là, on a des phéromones cuticulaires. Chez les fourmis, et au moins une fois chez les termites, on sait que la reine produit des phéromones pour dire que c'est bien elle, la reine, mais aussi pour inhiber au développement de nouveaux reproducteurs dans la colonie, par exemple. Voilà, on a tout un tas de signaux et en fait, ce qu'on sait sur l'évolution de ces signaux chimiques, c'est que c'est quelque chose qui a été réutilisé probablement de leur ancêtre solitaire ou d'une autre catégorie sociale, parce que c'est assez compliqué en fait de produire de nouvelles molécules chimiques. Donc c'est plutôt un combo de plusieurs molécules chimiques pour produire un nouveau signal.
Pour conclure, Serge Aron, pour conclure rapidement, là, pour passer du côté des mammifères, alors là, on ne va pas parler de phéromones, mais d'hormones prosociales, en l'occurrence l'ocytocine, qui est profondément impliquée chez les mammifères, hein, dans la socialité.
Oui, oui, il y en a d'autres. Hein. Il y a l'ocytocine, il y a la vasopressine, il y a des tas de neuropeptides, hein, ce sont des protéines. Et l'ocytocine en particulier, elle est sécrétée par l'hypothalamus et elle est connue, c'est une glande qui se trouve dans le cerveau, et elle est bien connue aujourd'hui pour jouer un rôle dans le comportement parental et prosocial. Alors il y a plusieurs exemples qui illustrent ça. L'exemple peut-être le plus ancien provient des moutons. En fait, si vous faites une injection d'ocytocine dans le cerveau d'une jeune brebis, vierge et non gestante, eh bien ça déclenche un comportement maternel. Elle se comporte comme une maman qui vient de mettre bas.
Et
ça, c'est un mouton.
J'ai obligé, c'est vraiment une toute petite conclusion, parce qu'en plus, nous avons consacré déjà une heure sur l'ocytocine et comment elle favorise la socialisation chez les mammifères. Et nous sommes arrivés déjà au bout de cette discussion. Mais pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditeurs à se tourner vers votre ouvrage, Serge Aron, « Les sociétés animales, évolution de la coopération et organisation sociale » paru chez Debock en 2019. Merci à vous deux. Tout de suite, c'est la chronique d'Alexandra Delbo. On parle de flamants roses. La migration ralentit leur vieillissement. C'est la chronique avec science.
Migrer ou rester, comment ce choix façonne-t-il la vie des flamants roses? C'est une espèce emblématique du sud de la France et du pourtour méditerranéen. Le flamant rose est un oiseau très particulier pour les biologistes parce qu'il a un rythme très lent, non pas dans sa manière de voler, mais dans son cycle de vie. Par exemple, il n'atteint sa maturité sexuelle qu'à 7 ou 8 ans, ce qui est assez tard pour un oiseau et même pour un animal en général. Aussi, il n'a qu'un seul petit par couvée. En contrepartie, les flamants roses ont une espérance de vie de 25 ans en moyenne. Certains atteignent même 80 ans en captivité. C'est l'un des oiseaux les plus longévifs de nos latitudes tempérées. On le trouve aussi ailleurs dans le monde, en Afrique et en Asie. Et cela rejoint une dernière caractéristique un petit peu particulière. Certains migrent et d'autres restent. C'est ce qu'on appelle de la migration partielle. Hugo Carella est postdoctorant dans le département de biologie de l'université d'Oxford. Il a participé à ses travaux lors de son premier postdoc dans le laboratoire de biométrie et biologie évolutive à Lyon.
Une migration partielle, en fait, cela décrit un système dans lequel la migration est facultative, c'est-à-dire qu'une partie des individus, en fait, migrent entre deux habitats géographiquement, tandis que les autres, on appelle par facilité les résidents, restent dans l'habitat principal. Ces stratégies, elles sont assez plastiques. Certains individus peuvent passer de résident à migrant et vice-versa. Cependant, d'autres individus restent consistants dans leur choix à l'échelle de leur vie. Et ces systèmes de migration partielle, ils sont très courants chez les oiseaux, puis ils sont très courants de façon générale chez les animaux migrateurs.
La migration est un effort très important pour les oiseaux. Ça demande de l'énergie et comporte des risques sur le chemin. Dans le même temps, voyager vers un lieu de vie plus doux en température peut avoir un intérêt. Cela explique que certains flamants roses partent quand d'autres restent. Mais quels sont les avantages et les inconvénients en matière de survie de l'espèce? En bon langage scientifique, quels sont les coûts et bénéfices de la migration partielle? C'est la question qui a animé cette nouvelle étude parue dans PNAS. Et pour cela, il a fallu suivre ces oiseaux toute leur vie. Et vous avez compris que la vie de ces oiseaux était longue et donc le suivi doit l'être aussi pour avoir des données robustes. C'est pour cela que ce genre d'étude n'aurait pas pu avoir lieu sans bénévoles, en l'occurrence Camarguais, avec le concours de l'Institut de Recherche de la Tour du Valat. Les animaux ont été bagués dès le plus jeune âge, relâchés évidemment ensuite, puis les bénévoles ont suivi attentivement leur vie et leur croissance pour savoir quand ils se reproduisaient et déterminer la fin de la vie de certains d'entre eux. C'est ainsi par exemple que les scientifiques ont pu déterminer que la longévité maximale d'un flamant rose dans la vie sauvage peut aller jusqu'à 55 ans. Mais ce n'est pas le but de l'étude. L'objectif est de comparer la survie et la reproduction des individus qui migrent à ceux qui restent pendant les 44 ans du suivi. Résultat, partir ou rester, cela se paye tôt ou tard.
En fait, notre étude révèle que la migration joue un rôle clé dans la survie et la reproduction au cours de la vie des flamants. Les résidents montrent de meilleures performances démographiques au début de l'âge adulte, avec une mortalité plus faible et une reproduction plus élevée que les migrants. Cependant, les résidents subissent aussi un vieillissement accéléré par rapport aux migrants. Donc en résumé, les résidents vivent plus vite et plus intensément, mais payent peut-être le prix de ce style de vie à un âge avancé. C'est vraiment le résultat cœur en fait, de cette étude. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces études sur la sédescence, elles bénéficient quand même d'un cadre théorique qui est quand même maintenant bien établi depuis le milieu des années 50. Et la question des compromis, et notamment des compromis entre les performances en début de vie et en fin de vie, c'est vraiment un concept qui est au cœur, en fait, de ces questions de sénescence. Donc, l'idée générale, c'est que si vous investissez beaucoup dans les performances en début de vie, et notamment en matière de reproduction, vous avez bonne chance de le payer plus tard en termes de vitesse de vieillissement.
Faire des enfants tôt accélère la sénescence, donc le vieillissement des flamants roses qui restent, tandis que ceux qui migrent ont un risque de mortalité accru au départ, mais un vieillissement plus lent. La migration est donc un allié anti-âge des flamants roses. Cela contredit un vieux dogme sur la longévité de ces oiseaux à l'état sauvage. En fait, pendant longtemps, on a cru qu'ils ne pouvaient pas vieillir, qu'ils mouraient forcément tôt, et que c'était seulement la captivité, et donc une protection face à cette cruelle nature, qui offrait des conditions propices à observer de vieux animaux. Maintenant, on sait que c'est faux. Les organismes peuvent vieillir en conditions naturelles, mais ce qu'on observe avec cette étude, c'est que les décisions comportementales, donc ici le fait de migrer ou de rester, affectent la vie tout entière de ces oiseaux et la possibilité de vieillir à des vitesses différentes. Reste à comprendre par quel mécanisme ce vieillissement accéléré s'opère chez ceux qui restent, par des processus épigénétiques, un stress oxydatif ou peut-être d'autres encore à découvrir.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci également à toute l'équipe de la Science CQFD et à Nicolas Leroulet à la technique. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.